Soit la réalisation du Carnet des monuments de Québec avec nos deux invités, Mesdames Nathalie Saint-Pierre et Monique Hubert. Bonjour Nathalie, bonjour Monique.
Bonjour.
Merci de partager avec nous votre expérience des plus uniques pour un projet tout aussi unique qui se veut être une promenade artistique ou un pèlerinage urbain qui se fait à pied dans les rues de la ville de Québec. Mais d'abord, j'aimerais faire de plus amples connaissances avec vous deux. J'aimerais commencer avec toi, Nathalie, étant donné que tu es un peu l'idéatrice de ce bel et ambitieux projet. Oui. Alors, parle-moi un peu de toi.
D'accord. Oui. D'abord, merci Ginette pour l'invitation. On est vraiment heureuses, moi et Monique. Alors, moi, pour me présenter, eh bien, je suis native du Lac-Saint-Jean, Saint-Félicien. Je vais vous donner un petit peu mon parcours. Et j'ai été élevée dans une famille où l'art était privilégié, si on veut. Mon père était lui-même journaliste, animateur de radio à la radio de Roberval. Et puis, ma mère, c'était une artiste. Elle chantait, elle peignait de l'abstrait, elle écoutait beaucoup de musique, elle dansait. Alors, on était élevés dans un environnement vraiment favorisé. De plus, on était propriétaire de deux cinémas, celui de Dolbeau et de Saint-Félicien. Notre appartement était situé juste au-dessus de celui de Saint-Félicien. Alors, des films, on en a vu là, à la tonne. Donc, les images font partie de ma vie depuis mon enfance. Alors, très jeune, je me suis intéressée à la peinture parce que chez moi, donc, il y avait beaucoup de... Chez mes parents, il y avait beaucoup de tableaux sur les murs. Et puis, j'ai commencé à prendre des cours avec une dame, une Française, une dame Noret, qui elle-même avait pris des cours avec Picasso. Alors, ça passe
le
bien,
vrai
hein?
Picasso,
le
là?
Vrai Picasso.
Oh là là!
Et puis, j'ai voulu continuer mon parcours parce que j'étais très curieuse. Je me suis inscrite à l'école... Moulin des Arts Albert Rousseau. J'ai pris des cours là, de dessin pendant plusieurs années. Et par la suite, j'ai poursuivi mes cours à l'Université Laval en arts et en enseignement des arts. Ensuite, à l'UQAR en études de la pratique artistique. Puis, j'ai aussi étudié à l'École d'été de Percé. Okay. Alors, en gros, c'est ça. Puis, j'ai mon école privée chez moi. Et j'ai été aussi 20 ans professeure au Musée national des Beaux-Arts.
Comment s'appelle ton école?
Ocre Jaune.
Ocre Jaune, oui. OK. Donc, on peut dire que tu es tombée comme Obélix dans la marmite des arts, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, oui, oui.
C'était
oui.
Le pouvoir, la potion magique, et oui. Toi, c'était le côté artistique.
Oui, c'était toujours une curiosité d'en connaître toujours davantage. Quand on rentre dans le domaine des arts, c'est sans fin, là. On découvre, puis ça nourrit ma curiosité.
Je comprends. Et toi, Monique, qu'est-ce que tu veux nous laisser un petit mot?
J'écoute Nathalie, puis je dis, on a quasiment le même début. Mon père était journaliste à l'Évangeline au Nouveau-Brunswick, où je suis née à Moncton. Okay. Je suis arrivée à 11 ans au Québec. Alors, papa journaliste, puis il finit à l'hôtel de ville ici à Québec, comme chef du cabinet de la mairie de Québec à l'époque de M. Lamontagne. Nous aussi, on a baigné dans les arts parce que mon père a toujours fait de la peinture, ma mère a fait de la peinture, papa a fait un cours d'architecture par correspondance. Alors, l'aspect artistique était très présent dans la famille chez nous. Tout le monde peint, tout le monde dessine, mais mes sœurs sont surtout des artisanes parce que ma mère était une artisane, tisserande, crochet, broderie, tout ce que tu veux, doigt de fée. Doigt de fée. Sauf que là, mon parcours se distingue de celui de Nathalie parce que moi, du côté des arts, ça a été celui de la danse. Alors, j'ai fait mon cours d'enseignement au Grand Ballet canadien comme professeur de danse en ballet classique. J'ai enseigné à l'Université Laval comme professeur de danse dans le cadre du département d'éducation physique pendant plusieurs années. J'ai fini ma carrière là. Alors, c'est vraiment la danse qui est devenue mon art à l'époque, mais dès toute ma vie, le dessin, pas la peinture, c'est vraiment le dessin qui m'a le plus animée. Mais dès que la retraite est arrivée, puis que j'avais déjà découvert Nathalie au Musée des Beaux-Arts, c'est de là que c'est comme ça qu'on s'est vraiment connus. Et ensuite, j'ai fait ces carnets de voyage, etc. et tout ça. Alors, non, c'est. les arts visuels ont pris une place prépondérante à partir du moment où j'ai pris ma retraite en 2012.
Vous avez des parcours franchement très intéressants, oui, l'une et l'autre. Je ne savais pas moi non plus, là. Vraiment, c'est très c'est intéressant.
Oui, ouais, mais quand elle me dit que son père était journaliste, je dis, mon Dieu, on se retrouve
c'est drôle quand
dans
même,
le hein? même bassin. Famille nombreuse, 8 enfants chez nous. Tout le monde fait des arts. Mmh. Tout le monde est habile des mains. Tout le monde, ça tisse, ça crochette, ça peint, ça fait toutes sortes
d'arts. Alors toi aussi, t'es tombée dans la marmite que je parlais tout à l'heure. C'est bon. D'ailleurs, dans vos yeux, on sent cette espèce de lumière, là. Je trouve ça très intéressant. Donc, je disais en préambule qu'on avait un projet insolite à présenter qui était quand même assez particulier. Là, on fait un voyage à Québec, mais à pied. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais ça que vous m'expliquiez un petit peu ta démarche, parce que toi, tu es l'idéatrice, Nathalie, du projet. Juste ta démarche comme artiste avant d'aborder celle des carnets. Tu sais, parce que tu es dans une démarche, toi, en tant qu'artiste aussi.
Oui.
OK. Alors, parle-moi un peu.
OK. Ben moi, je suis peintre et puis je suis représentée dans deux galeries. C'est ça, depuis l'âge de 17 ans que j'ai commencé à faire de la peinture. Puis c'était toujours une recherche là, sans fin. Je suis une personne qui me pose beaucoup de questions sur la vie, le sens de la vie, depuis que je suis jeune. Bon, alors ça fait partie de ma démarche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ici, puis combien de temps, qu'est-ce qu'il y a après la vie, notre passage sur Terre, comment ça se déroule, puis quels sont... À quoi on peut s'accrocher en tant qu'humain là, par rapport à notre impermanence ici-bas. Donc ça, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup ma démarche, notre survie, finalement, la survie de l'espèce. J'ai travaillé beaucoup sur le sujet du peuple du Nord, parce qu'eux, ils étaient aussi les premiers touchés par les changements climatiques. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée aussi, qui m'a toujours donné un souci, l'environnement... Alors, comment l'humain va s'adapter à tout ça? C'est toujours quelque chose qui a animé ma démarche. Et puis, donc, j'ai fait des séries de tableaux sur ce peuple-là du Nord. Puis, en ce moment, je peins beaucoup sur... je fais des glaciers, des icebergs, parce que si les icebergs disparaissent, bien, mon doux, après ça, qu'est-ce qui va nous rester, là? Nous aussi, on est menacés comme humains. Alors, je suis très... L'effet domino de tout ça. Donc, c'est ça qui anime beaucoup ma démarche, cette préoccupation-là de l'humain, son impermanence ici, puis l'impermanence de son habitat. C'est quelque chose qui me touche.
D'accord. Et si on veut, je ne sais pas si je ne veux pas bousculer non plus là, ta pensée là, par rapport à le sujet qu'on va travailler cet après-midi, mais ta démarche par rapport au carnet, est-ce qu'on peut l'amener maintenant aussi?
Oui, bien sûr. Donc, j'aime transmettre aux gens, à mes élèves entre autres, ma sensibilité, ma vision du monde, et puis dessiner à l'extérieur. Avant, j'étais toujours à l'intérieur, mais dessiner à l'extérieur, c'était quelque chose qui me fascinait aussi, parce que le rapport à l'espace est vraiment différent. Dans l'atelier ou avec une photo ou peindre ce qu'on a à l'intérieur de soi, on est dans notre monde intérieur, mais quand on sort à l'extérieur, c'est toute une autre échelle. Puis c'est quelque chose que je voulais expérimenter avec mes élèves. Puis j'ai commencé comme ça à inviter des petits groupes à venir peindre. On a commencé par aller une journée à Baie-Saint-Paul, après ça, une autre journée dans mon coin où je demeure. Puis c'est souvent les élèves qui me lancent les défis, qui me disent « Mais Nathalie, pourquoi tu n'organiserais pas quelque chose de plus long ou ailleurs, à l'extérieur? » Alors, moi, les dessins que je faisais avec eux, j'appelais pas ça carnet de voyage. Je connaissais même pas ce terme-là. Mais comme j'avais étudié à l'université, je recevais leurs informations sur les cours, etc. Puis là, il y avait un de mes professeurs, Alexandre David, à l'université, qui m'avait parlé de l'école d'été de Percé. Il m'avait dit « Ah, je te verrais aller là, puis t'aimerais ça, ce genre de cet environnement-là ». Alors, quelques années plus tard, j'ai vu qu'il y avait un carnet de voyage qui était offert, puis ça s'appelait vraiment comme ça, carnet de voyage avec Gilles Matt, un architecte de Québec, qui, lui, a publié plusieurs carnets de voyage. Alors, j'ai assisté à son atelier à Percé. Évidemment, quand je suis arrivée à Percé, j'ai eu un immense coup de cœur pour la ville, pour la région de la Gaspésie.
Et toute la semaine, j'ai réalisé un carnet de voyage avec Gilles Mapp, puis j'ai eu un coup de cœur pour cette activité-là qui se fait en plein air et pendant une semaine de temps. Alors, sans plus tarder, j'ai organisé des carnets de voyage dans la ville de Québec et à plusieurs autres endroits dans la région de Québec, puis aussi en Europe.
Okay. Donc, le début des carnets de voyage débute en 2003, dans ces
eaux-là? Oui, exactement, dans ces eaux-là.
OK. Ouais. Avant d'aborder comme tel le carnet de voyage, je voudrais juste que tu me parles de c'est quoi véritablement un carnet de voyage?
Oui. Un carnet de voyage, c'est un genre hybride entre le dessin et l'écriture, le récit de voyage. Donc, ça se passe évidemment à l'intérieur d'un voyage, soit à l'étranger ou dans sa propre ville. C'est un genre artistique, un genre d'expression artistique qui favorise la rencontre de l'autre, puis qui nous sensibilise aussi au territoire de l'autre. Comment l'autre vit à travers son territoire? Donc, c'est la transmission par le dessin, par l'aquarelle, puis par le texte, de notre vision du monde, de ce nouveau territoire-là qu'on découvre. Alors, on met tout ça en dessin puis en écrit. Donc, je dirais que c'est une expérience globale de l'art, de la création, puis du voyage en même temps. Tout ça qui se résume dans la perception qu'on a de tout ça dans un carnet, soit en feuilles détachées ou en feuilles reliées. Sa forme peut prendre plusieurs styles. Donc, il peut être carré, il peut être rond, il peut être réalisé en accordéon. Puis, le matériel utilisé, c'est toujours léger parce qu'on se déplace souvent à pied, donc sac à dos, donc quelques crayons, aquarelles, eau, pinceau, puis notre petit siège. Puis on s'installe dans la ville ou dans la nature. Puis là, les sujets sont complètement variés. On parle de nature, on parle de nuages, on parle d'eau. Alors, on entre dans un territoire sans fin. C'est vraiment extraordinaire là, comme expérience.
Et toujours à pied?
Toujours à pied. Oui, surtout si on le fait, par exemple, dans la ville de Québec, on stationne, on ne reprend pas notre voiture jusqu'à la fin de la journée. Si on est dans un petit village, ça va être à pied, mais des fois, il faut se déplacer quand même en voiture parce qu'il y a des sites qu'on veut voir qui sont un petit peu plus loin, qui demandent de prendre la voiture. Okay. Mais sinon, ça se passe à pied, sac à dos, puis ça se passe bien. Là. Disons que c'est une journée intense, là. Même une semaine très intense. J'aide les gens pour les participants, participantes dans la couleur, trouver la couleur, trouver la perspective aussi, comment rendre la mise en page aussi du carnet. Ça, c'est une caractéristique du carnet de voyage qui est très importante.
On va l'aborder d'ailleurs plus tard quand on va parler de notre sujet comme tel. Maintenant, tu me parlais tantôt de ta démarche avec M. Matt, l'architecte, oui. Qui t'a donné un peu le coup de cœur oui. pour vivre l'expérience des carnets de voyage, etc. Mais ça origine d'où, ça, les
oui,
carnets?
Oui, oui, oui. Les carnets, ça remonte à la Renaissance, avec Léonard de Vinci, qui faisait beaucoup de voyages en Italie, puis en France. Et puis, ensuite, il y a, dans le mouvement romantisme, il y a Eugène Delacroix, un artiste français qui a beaucoup voyagé au Maroc, qui a fait beaucoup de carnets de croquis là-bas. Puis, évidemment, William Turner, en Angleterre, qui a beaucoup voyagé, qui partait avec son petit kit d'aquarelle, qui a beaucoup voyagé dans son pays, mais aussi en France, qui a même rencontré Eugène Delacroix. Donc, c'était une pratique dans le mouvement romantisme, le désir de sortir à l'extérieur. Puis, c'est ça aussi, les artistes français désiraient aussi, à cette époque-là, d'aller en Italie, puis prendre des croquis, sortir de leur atelier pour voir ce qui se passait dehors, ce qui se passait à l'intérieur de leur atelier, de leur mur.
Donc, ça fait longtemps que ça existe,
les carnets. Ça fait longtemps que ça existe.
Puis là, il faut aussi, pour oublier, la photographie n'existait pas à cette époque-là aussi.
Non, c'est ça, hein? Exact.
Donc, c'était le moyen de prendre des photos, si oui. on veut, okay. pour pas seulement les artistes, mais aussi pour les ingénieurs.
OK. On va revenir là-dessus, d'ailleurs, en deuxième partie. Mais pour terminer notre première section, j'aimerais ça que Nathalie me présente un petit peu pourquoi elle a choisi la tune American Tune par Paul Simons comme première pièce musicale.
OK. Bien, premièrement, j'aime beaucoup l'air de cette chanson-là. J'aime beaucoup la musicalité. Puis, dans mon atelier, quand j'ai mes élèves en peinture, j'ai toute une playlist. Puis, cette toune-là revient souvent. Je l'aime beaucoup. Puis, je trouve qu'il y a une poésie dans cette chanson-là parce que on dirait qu'on était dans l'illusion, puis on s'est trompé, mais c'est pas grave, je continue à m'envoler. Donc, il y a une poésie. J'aime ça, la poésie.
Alors, écoutons cette belle poésie. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right, just weary. Don't expect to be bright and bon vivant so far away from home. So far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we did so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, what's gone wrong? I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. Looking back down at me, smiling and shivering. I dreamed I was flying high up above. My eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. Well, we come on the ship, they called the Mayflower. We come on the ship that sailed the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's all right. It's all right, it's all right. You can't be forever blessed. Tomorrow's gonna be another day. I'm trying to get some rest. That's all I'm trying to get some rest. Vous êtes à l'émission Ici et ailleurs avec nos invités Nathalie Saint-Pierre et Monique Hubert, deux femmes passionnées qui nous font découvrir un projet artistique assez insolite, celui de nous proposer un petit tour de ville pour admirer ou redécouvrir des monuments existants ou qu'on passe souvent devant sans même les regarder. Alors, c'est ça qui est d'ailleurs que je trouve insolite, c'est effectivement moi-même, genre, depuis que je vous ai rencontré. Quand je me promène dans la ville, parce que je suis souvent à pied, je remarque maintenant beaucoup plus les monuments qu'avant. Puis là, des fois, je me dis, ah, était-tu là, lui? Mais oui, il était là, tu sais, c'est parce que je le voyais plus. Alors, ça nous permet en même temps de notre entrevue aujourd'hui de permettre aux auditeurs, auditrices aussi, de faire comme moi, de se promener et puis de voir les monuments Et puis s'il fait pas beau, ben au moins il y aura un livre qui existe dans lequel on retrouve plein de trucs qu'on va discuter tantôt d'ailleurs sur son contenu. Donc, à la fin de la première section, Monique, tu me disais qu'à l'époque, on parle de, je sais pas moi, 13, 14e siècle, il n'y avait pas de photos, effectivement. Alors, c'était autrement qu'on faisait ça. Alors, continue donc là-dessus.
Ben, l'idée était que si tu veux un souvenir d'un lieu où tu es, oui. Ben, de dessiner, ça te donne cette chance-là de faire l'image du paysage ou des personnes qui sont là. D'ailleurs, les grands portraitistes, hein, c'est parce que les gens ne pouvaient pas se faire une photographie de ce qu'ils étaient. Mais je reviens sur l'idée que tu as dit depuis que tu nous as parlé que tu vois les monuments. Oui. Mais dessiner, c'est aussi ça. Quand on dessine quelque chose, ça nous imprègne en soi, puis on devient, on aguerrit notre regard face à tout ce qui nous entoure. Donc, plus on dessine, plus on voit. Plus on voit, plus on a le goût de regarder, puis plus on voit toutes sortes de choses qu'on n'avait jamais vues avant. Parce que souvent, on passe devant les choses, puis on ne les voit pas.
OK, t'sais? OK. Fait qu'on y trouve toutes les deux notre profit à prendre le temps de...
Absolument, c'est vraiment... Puis on a une communion avec l'objet qu'on observe ou qu'on regarde ou qu'on dessine. Mais si on revient pour l'ancien temps, il reste qu'à l'époque, si on parle juste des conquêtes militaires, les conquêtes territoriales, ça prenait quelqu'un qui allait dessiner les lieux, ça prenait quelqu'un qui allait arpenter les lieux. Alors, les arpenteurs géomètres étaient aussi souvent il y avait avec eux des dessinateurs pour délimiter le territoire, pour indiquer comment le territoire allait être, était fait, était constitué.
OK, OK. Donc, ça fait longtemps que
ça existe. Ça fait longtemps qu'il y a toujours eu, avec tous les voyageurs, les grands explorateurs, mm-hmm. avaient toujours avec eux, ou eux-mêmes étaient quelqu'un qui savait dessiner.
OK. Ah, c'est intéressant, ça.
Oui.
Tu disais, Nathalie...
J'allais dire aussi les scientifiques là, pour répertorier la flore, la faune. Oui.
C'était la même chose.
C'était la manière.
Les archéologues, aujourd'hui, oui. font ça encore. Okay. Dessiner tout de suite ce qu'ils ont vu sur le lieu avant de prendre des photographies.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu le film avec la flore laurentienne, avec... oui. Je me souviens plus son nom, là. Pardon?
Ah oui.
Marie-Victorin, merci. Oui, et il faisait la même chose. Il emmenait ses étudiants à aborder le thème, les fleurs, etc., en les dessinant, les touchant, etc. Alors, c'est ce que tu fais un peu, oui. Nathalie, avec tes carnets. Hein?
C'est ça que je fais avec mes carnets. Je voulais juste poursuivre pour concernant l'origine du carnet.
Oui, oui.
Je voulais ajouter quelque chose. Parce qu'après le romantisme avec Turner, puis... de la Croix, il y a eu les impressionnistes qui ont eu aussi ce désir d'aller à l'extérieur, sortir de leur atelier pour peindre. Et puis, on appelle ça un peu le plénarisme, sortir à l'extérieur, puis dessiner, puis peindre aussi.
Le plénarisme, tu sais, c'est la première fois que je l'entends.
Le plein air, du mot plein air.
Oui, exact.
Oui, oui. Et puis, après ça, c'est tombé un petit peu dans l'oubli, puis... Et puis, il y a eu deux artistes français. Il y a eu Yvon Lecor, puis Titouan Lamazou, ou Antoine Lamazou, de son vrai nom. C'est deux navigateurs, artistes, carnetistes, qui ont fait beaucoup de voyages et qui ont aussi publié plusieurs de leurs carnets de voyage. Donc, ça, c'est en France, dans toute l'histoire du carnet, là. Et puis, il y a eu aussi un artiste photographe new-yorkais, Peter Beard, qui, lui, a fait plusieurs séjours en Afrique, qui a fait beaucoup de carnets là-bas, puis qui a fait beaucoup de catalogues, là, avec ses photos collages, ses photos montages, avec des interventions de peinture. Alors, reste à voir ça aussi, là, tout son travail à lui, là.
OK.
Donc, voilà pour l'origine du carnet. Et puis, pour poursuivre comment mes carnets fonctionnent, eh bien, d'abord, je choisis une destination. Souvent, ça peut être une participante, un participant qui me dit « Nathalie, ça serait le fun si tu faisais un carnet dans cette région-là. » Par exemple, Kamouraska, Lac Mégantic. Et là, ben, je vais voir le territoire, les lieux, puis je rencontre les intervenants là-bas. Par exemple, au carnet de Kamouraska, j'ai rencontré la directrice du musée, Mme Annick Cormain-Boeuf, puis de fait, c'était aussi la mairesse du village.
Okay.
De fait, c'était aussi elle qui nous faisait la visite du village. Alors, il y a des personnes sources comme ça, des ressources qui sont vraiment importantes quand je planifie mes carnets de voyage. Donc, pendant une semaine, j'étudie les lieux, tout ça. Je dresse un itinéraire parce que mes carnets, ça dure une semaine, du lundi au vendredi, du matin vers 9h jusqu'à 16h. Et je planifie toutes les journées comme ça. À telle heure, on va être à tel endroit, on va dessiner telle chose. Après ça, on se déplace, on va là, on va dîner à telle place. Et puis, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, là, le matériel, le carnet aquarelle, ensuite quelques crayons, etc. Mais il y en a aussi qui veulent ajouter du collage, qui veulent ajouter d'autres matériaux aussi. Comme du pastel, il y en a plusieurs qui veulent faire ça aussi. Mais l'idée, c'est de s'imprégner du lieu. Ça, c'est très important, de s'imprégner du lieu, puis de vivre le carnet. C'est une expérience là, vraiment unique et globale,
okay.
Comme je disais tout à l'heure.
Et toi, Monique, qui a fait partie justement de cette... Première expérience avec Nathalie par rapport au carnet de voyage?
Tu parles d'un carnet de des monuments? Non, c'était pas la première fois.
Okay.
J'ai fait une dizaine de carnets avec Nathalie sur à peu près sur 13 ans,
okay.
Excluant le COVID, naturellement. Et
presque depuis les débuts, en fait.
Non, Nathalie a commencé en 2003. Moi, okay. J'ai commencé en 2013 avec les carnets de voyage.
Okay.
Tandis que j'avais déjà fait plusieurs ateliers avec Nathalie au musée. Puis Nathalie, elle animait À vos crayons, qui était une activité absolument extraordinaire au musée des Beaux-Arts, où on était à même les salles d'exposition. Et là, face aux œuvres, on avait toutes sortes de situation, c'était pas nécessairement une copie d'œuvre, c'était toujours quelque chose où on mélangeait des œuvres une avec l'autre, où on partait d'une idée d'une œuvre, puis on créait autre chose. Fait que c'était une école extraordinaire en termes de créativité au musée. Mais je connaissais pas les carnets de voyage. Puis c'est un autre ami, dans le cadre des cours de Nathalie, qui m'a dit, ben non, elle fait des carnets de voyage aussi. Puis là, j'ai dit, oh, ben ça m'intéresse. Et le premier, c'était la ville de Québec.
OK.
Le vieux Québec.
Okay.
Mais c'est absolument fascinant quand tu commences à dire « je vais dessiner ma ville », puis tu dis « pourtant c'est des choses que je connaissais ou j'avais déjà vues, mais les dessiner, tu rentres dans un autre monde. C'est, » c'est une autre expérience que de dessiner quelque chose que tu connais, alors que tu as toujours passé devant. Puis en plus, ben, elle nous amène toujours voir des choses qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. elle a toujours le don de nous amener avec des surprises ou de faire de prévoir le dessin dans un contexte auquel on n'aurait jamais pensé le faire. Ça, c'est magnifique, là. Elle est d'une créativité absolument sans fin.
Ah, ben, c'est plaisir d'entendre ça, par exemple, hein, parce que justement, tu fais partie du groupe et toi, c'est toi qui avais eu l'idée d'eux. Donc, c'est plein de découvertes, tout
oui,
ça.
Oui, c'est stimulant. C'est très stimulant. C'est pas pour rien que j'en ai fait 10 puis que le prochain, je l'anticipe avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
Ah oui, c'est vrai. C'est plaisir d'entendre.
Je peux ajouter aussi sur ce que tu dis, Monique, c'est quand on fait un carnet de voyage, on est omnibulé par le paysage. Par le sujet qu'on veut dessiner. Par exemple, quand on a fait un carnet de voyage à Bar Harbor, sur le top Cadillac, là, une montagne qui est très haute, on était installés là, on était une dizaine de personnes sur nos petits sièges, puis on regardait toutes les petites îles au loin. Puis on était là 3 heures assis à cet endroit. Puis pendant les 3 heures, bien, il y a plusieurs autobus qui sont montés en haut. Les gens sortaient de l'autobus, ils prenaient des photos, puis ils rembarquaient dans l'autobus. Mais nous, là, on était imprégnés par ce paysage-là, d'essayer de capter la beauté de la lumière, la couleur, la texture, les lignes, la perspective aérienne. Comment rendre tout ça dans notre carnet? On serait resté là plus longtemps, mais disons que 3 heures, ça commence à être pas mal pour nos petites fesses quand on est là.
Ce qui fait que le vécu, c'est plus un instantané.
Non.
On repart avec quelque chose d'immense, là.
C'est plus qu'une photo, là. Ouais. Ouais, parce qu'après, tu le regardes, puis tu revis ton voyage vraiment intensément, là. Puis aussi, être dehors, On est dans les éléments aussi. Là. Il y a le vent, il y a la chaleur, le soleil,
la pluie,
les gens qui viennent voir, qui nous parlent. On est vraiment dans une atmosphère.
Parce que beau temps, mauvais temps, ça se déroule quand même.
Oui,
c'est ça?
Oui, on a fait Sillery il y a 2 ans, puis la pluie tombait, puis là, tu vois les gouttelettes de pluie sur ton aquarelle. Oui. Puis là, tu essaies d'ouvrir le parapluie, puis de faire ton dessin même avec ton parapluie.
Oui. Alors, ça demande une adaptation, là, parce qu'il faut chercher aussi des lieux pour s'abriter quand il pleut trop, là. Mais c'est l'activité a toujours lieu quand même.
Eh bien, c'est intéressant. Puis, dans la dernière section de notre émission, on va parler d'ailleurs du carnet de voyage des monuments comme tel, avec votre démarche et concrètement comment ça s'est passé. Oui. Mais entre-temps, on va y aller avec le deuxième choix musical qui est « Tu m'aimes-tu » de Richard Desjardins.
Comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi, tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Et midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau. J'en croyais pas mon corps. En permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai porteur à ton père. Un daredevil, Nefertiti des sensations, c'est toute ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Pour moi, te dis à ta chum, check le gold des lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Et midi moins cinq et la femme de ménage est là pour faire rien que compter les naufrages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans la chambre à coucher. Qui veut toucher ton pied. Pays dans une vie antérieure. La foi que je t'ai dit va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tord du cœur. Je t'arriverai avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent. Et midi tapant et la femme de mes
changé de personnage. Tellement, tellement, tellement belle. Je vais bénir la rue, je vais brûler l'autel. Coudon, tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu?
Vous êtes à l'émission Ici et ailleurs avec nos invités Nathalie Saint-Pierre et Monique Hubert. Donc, les filles, si on revient un peu à ce qu'on discutait dans la deuxième section, où vous me parliez quelque part de toute l'organisation, comme quoi vous étiez imprégnées finalement de tout le projet plutôt que de prendre une photo. C'est ce que j'ai retenu d'ailleurs beaucoup. Et ben, je voulais justement qu'on en arrive à l'œuvre qu'on présente aujourd'hui, qui s'appelle d'ombre et de bronze et d'histoire, le carnet de voyage des monuments de Québec. Donc, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu, Nathalie, toute cette démarche que tu fais par rapport à ce livret, ce carnet.
Oui. Alors, disons qu'un groupe d'artistes avec lesquels on a fait le carnet des escaliers de Québec, d'abord. On voulait en faire un autre, et en créer un autre, et on cherchait un sujet original, parce que les escaliers, c'était vraiment original comme carnet. Et puis, donc, on sortait toutes sortes d'idées. Puis, une de notre groupe, Sylvie Riverain, a suggéré « Pourquoi pas les monuments de Québec? » Alors, waouh, on s'est dit « Oui, les monuments de Québec, c'est vraiment un bon sujet, parce que, d'abord, c'est des monuments, c'est déjà une œuvre artistique en soi. » Toute l'histoire qui tourne autour de ça. Alors, tout de suite, on était toutes d'accord avec ça. Donc, c'est un peu les mêmes personnes qui avaient fait le carnet des escaliers de Québec. Puis aussi, j'ai contacté d'autres personnes pour aussi participer. Parce que j'ai choisi les personnes qui allaient créer ce livre-là. Dans mes carnets de voyage réguliers, les gens s'inscrivent, peu importe, débutants, avancés, je prends tout le monde. Tout le monde part de où il est, puis tout le monde fait quelque chose à sa manière, puis c'est beau. Mais pour les monuments, c'était beaucoup plus engageant, donc il fallait que la personne fasse toute la recherche là, de tous les monuments. Parce que d'abord, ça a commencé par une pige. Qui va faire quoi? Puis aussi, répertorier quel monument on allait faire. Parce que dans Québec, il y a beaucoup d'œuvres. Il y a les monuments qu'on a faits, mais aussi il y a l'art public. Alors, il fallait départager tout ça. Alors, pour faire ça, bon, on a regardé dans le Grand Robert, qu'est-ce que ça voulait dire un monument, finalement. Alors, je vous le cite ici, c'est un ouvrage de sculpture destiné à perpétuer la mémoire d'une personne, d'une institution ou d'un événement marquant. Donc, ça inclut les statues, les bustes, les hauts-reliefs, les bas-reliefs, les obélisques, les colonnes et les croix. Donc, on est parti de là, puis de là, on a répertorié 125 monuments. Alors, lors d'une réunion à mon atelier, on a mis tout ça dans un chapeau, ces 125-là, puis on a pigé à travers les 11 participants qui allaient faire quoi.
C'est original, ça.
Oui, c'est original, puis on était toutes dans la joie de découvrir nos monuments. Donc, c'était engageant aussi parce que les personnes devaient faire la recherche sur les monuments, la recherche historique, qui est ce personnage qui est représenté, et aussi la recherche sur le sculpteur. Puis, à une date donnée, il fallait remettre tous nos textes à Marie Dagenais, qui a d'ailleurs écrit l'introduction, puis qui s'est occupée de tout mettre les textes ensemble. Donc, le carnet des monuments comme tel, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un livre d'art, parce que chaque artiste a représenté les monuments d'une manière vraiment originale. C'est un livre d'art, mais aussi c'est un outil pour le visiteur, pour le citoyen de Québec, une manière de redécouvrir la ville de Québec en marchant avec le livre à la main, parce que Pierre Toupin, notre géographe, illustrateur, artiste, a fait de très belles cartes avec des points rouges où chaque monument est identifié. Donc, le visiteur ou le citoyen peut se déplacer, parcourir la ville par air. Tous nos monuments sont séparés par air, par espace dans la ville. Pierre a très bien réalisé ses cartes. tout est bien défini. Puis à la fin du livre, on peut lire sur qui était ce personnage représenté et qui était le sculpteur. C'est quoi toute l'histoire qui est autour de ça?
Si tu me permets, oui. Tu as dit tantôt, les œuvres que vous avez travaillées, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'art public. Hein? Oui. Donc, l'art public, ça, c'est la fameuse politique du 1%, si je ne me trompe
ça.
Pas. Là.
Exactement.
Hein? Ça, vous ne touchiez pas à ça,
on
ces aspects-là.
Pas à ça. Non.
C'est vraiment ce qui est privé ou ce qui a été donné des dons de ici et ailleurs, et, etc. Là.
Oui, c'est
okay.
ça.
OK. Donc, oui, je te. Excuse-moi. Non.
Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans notre livre, finalement? Là? Donc, il y a les très belles œuvres des artistes qui ont participé à ce carnet. Donc, l'objectif aussi, c'était de trouver une mise en page, créer des mises en page vraiment originales puis authentiques. Donc, pour ça, il y a eu des ateliers qui ont été faits chez moi, là, 3 ateliers sur le dessin, sur la couleur, parce que les monuments, ils ont toutes sortes de couleurs. Là. Ils se déclinent en bronze, mais ils peuvent se décliner en pierre, en bois, en acier. Donc, c'est de trouver quelle couleur utiliser à l'aquarelle pour rendre ça, finalement. Puis aussi, la mise en page. Dans un carnet de voyage, même ceux que je fais, là, mes carnets réguliers, la mise en page, c'est toujours quelque chose que je fais beaucoup travailler à mes élèves. C'est pas une mise en page traditionnelle, on a l'image au centre ou l'aquarelle au centre, puis ça finit là. Non, on veut avoir une mise en page là, hétéroclite qui propose une lecture de la droite vers la gauche, de haut en bas. Il peut y avoir des petits croquis, un grand croquis. Donc, c'est débridé comme situation là, dans l'espace de la feuille, sur l'espace de la feuille. Puis c'est ça aussi qu'on a pratiqué pour le carnet des monuments, c'est ce qui lui donne, lui confère toute son originalité. Alors, on retrouve ces beaux... Puis d'ailleurs, avant de poursuivre, j'aimerais bien nommer mes 11, si vous permettez, là.
Le groupe d'artistes élèves qui faisait partie de...
Oui, d'accord. D'ailleurs... Je nommais tout à l'heure Sylvie Riverain, qui avait trouvé le sujet. Ensuite, on a Guylaine Côté, Huguette Asselin, Louise Deneau, Louise Grenier, Richard Marceau, Pierre Toupin, qui a fait les cartes, puis Marie, l'introduction, puis Monique et moi-même.
Robert Poiret.
Et mon doux Robert Poiret. Excuse-moi, Robert.
J'ai ma liste maudite.
Donc, le groupe est constitué d'environ 10 à 15 personnes maximum.
On était 11. Là.
Vous étiez 11 dans ce oui. cas-ci. Et puis ça, c'est pas mal le maximum que vous constituez pour un groupe. Puis après ça, vous faites comme la démarche que vous expliquez,
oui.
la pige, etc. Et
oui.
puis après ça, c'est vraiment l'étude, parce qu'il n'y a pas juste de le dessiner. Ah. C'est l'étude du personnage, du sculpteur qui le fait.
Oui.
Et en même temps, ben, ça, beau temps, mauvais temps, comme vous dites. Et puis tantôt, tu as parlé du bronze qui pour moi, bronze, c'est couleur bronze, c'est un peu brun, là, tu sais, mais avec ce que tu viens de me dire, c'est que, ben là, je vois l'œil artistique, d'ailleurs, c'est les lumières bleues, les lumières... Alors, vous essayez de refléter dans vos carnets ces couleurs-là, dépendant de la journée, puis de la lumière qui arrive, c'est ça?
Oui, oui.
Mais aussi l'environnement dans lequel oui. on va le placer, parce que tu peux juste comme... faire comme si quelqu'un avait fait la photo, puis c'est juste le monument, mais là, c'est plus que mettre le monument. Si la personne représente... moi, je pense au Monument des Braves, c'était la bataille de Sainte-Foy, ben là, j'ai introduit une partie d'une œuvre qui existait déjà, de peinture, qui illustre la bataille de Sainte-Foy, mais j'ai mis le monument à l'intérieur de la bataille de Sainte-Foy. Okay. Où on crée une carte géographique, puis on situe Louis Hébert. Puis expliquer où est-ce qu'il était à cette époque-là. Donc, chacun a trouvé comme des éléments qui correspondent au vécu ou à ce que le personnage représente. Puis on l'a situé, on a fait le monument, mais on l'a aussi situé dans un contexte qui représente ce que cette personne-là a fait sur le plan historique.
Donc, dans le carnet, on retrouve non seulement les illustrations, les aquarelles, mais on retrouve aussi une recherche qui a été faite sur l'auteur ou
oui.
sur l'homme ou la femme d'exception qu'on a voulu illustrer dans le carnet.
Ou
parce que dans le fond, nos monuments, c'est un peu ça. Hein? C'est toutes des hommes et des femmes d'exception.
Puis des événements aussi.
Des événements aussi.
C'est comme des événements.
Justement, parlons de ces événements, de ces personnages. Ça représente combien de sculptures ou de monuments plutôt qu'il y a dans ce carnet?
125 monuments.
Oh, OK, 125 monuments.
Qui qui, donc ces 125 monuments représentent des fondateurs, des explorateurs, des navigateurs, des missionnaires, des premiers colons, des membres des communautés religieuses, enseignantes et soignantes, des militaires, des marins, des femmes, des hommes politiques, puis des artistes.
Ça reflète vraiment plusieurs thématiques, que ce soit l'architecture, de l'histoire, de la bougie politique et compagnie.
Puis des poètes, toute l'allée des poètes sur la rue d'Auteuil.
Oui.
Puis là, tu as des personnages qui viennent du Vietnam, tu as des gens qui viennent de la Russie. On avait Émile Nelligan.
Qu'est-ce que tu avais choisi, toi, dans
la pige? Moi, j'ai rien. Je les ai pas choisis, je les ai eus.
Oui, tu as hérité de quel...
De toute une série que j'ai écrite, mais que j'ai plus sur ma feuille ici.
C'est pas grave.
J'ai Monseigneur de Laval. Le gros monument de Monseigneur de Laval à côté de l'ancien bureau de poste de Québec, là, près de la côte de la Montagne.
Okay.
J'ai eu trois personnages qui sont dans les niches du Parlement de Québec. J'ai le gros monument de Montcalm.
Il y en a un que tu m'as parlé tout à l'heure, d'ailleurs, que moi-même, pourtant, je le vois tous les jours, comme je disais, parce que je marche presque tous les jours, ici, près de la rue Saint-Paul,
la Vivrière.
Oui.
La Vivrière aussi, ça, c'est un monument magnifique.
Qu'on pense toujours que c'est la FAO, parce qu'il y a un panier de fruits et légumes,
aussi la FAO.
Oui, c'est vrai, c'est la représentativité, mais il y a un nom qui s'appelle la Vivrière, et je ne le savais pas.
Mm.
Alors, à travers ton carnet, on apprend aussi ces choses-là, hein. Il y a eu un moment fort aussi qui a été fait par rapport à tout le groupe élève quand vous êtes allé, parce que vous me parlez de bronze, donc pour être capable de bien comprendre c'est quoi, vous êtes allé, je pense, à Inverness comme tel.
Inverness, oui, c'est la ville du bronze. On a été deux jours là à Inverness à visiter l'atelier du bronze, le musée du bronze, puis la fonderie aussi de Anne Renard. On a eu à l'atelier du bronze, à la fonderie, toute une explication avec M. Gagnon de tout le processus du bronze. Il y a 13 étapes dans le bronze. Alors,
Gagnon, Aristide Gagnon?
Non, c'est lequel?
En tout cas, c'est celui qui est en chef, finalement, du musée de bronze à Inverness. Oui. OK, d'accord.
Puis toi, là, je fais une parenthèse, mais c'est ça qui est exceptionnel avec Nathalie. On aurait pu juste se contenter de faire les musées, les monuments, mais elle a ce souci qu'on ait une vision globale de ce que ça implique, puis de l'événement, puis du lieu où on est. Il y a toujours une petite touche de plus, puis ça, c'était un exemple extraordinaire de où elle nous amène, là.
J'avoue moi-même que le bronze, là, j'en parle mon latin. Quand tu me disais tantôt les lumières et tout, etc.
Oui, les patines.
Oui. Donc, tu as visité ça.
Oui.
Et puis, c'est sûr, on va manquer de temps pour parler de tout parce que malheureusement, on a une limite à parler. Mais c'était un moment fort, si je comprends bien.
C'était
ça a permis
un
à tous
fort.
Les élèves de comprendre c'était quoi.
Oui.
Et j'aimerais ça aussi que tu me parles un petit peu à travers ce livre-là qui, en passant, est toujours en vente dans les principales librairies de Québec. Là. Mais j'aimerais bien que tu nous parles de ton futur projet que tu vas faire, là?
Oui. Alors, là, j'amène mes groupes à Percé. Carnet Percé en juillet, du 14 au 18 juillet, une semaine, et du 21 au 25 juillet. Donc, on va vivre l'expérience de Percé. Moi, ça fait 20 ans que je fréquente Percé à tous les ans, donc j'ai un coup de cœur réel pour cette ville-là. Et puis, j'ai fait déjà plusieurs carnets à Percé. Puis moi-même, à chaque fois que j'y vais, je fais un carnet de voyage personnel. Et j'avais l'intention, et même c'est une participante qui m'a dit, Nathalie, j'aimerais vraiment ça que tu organises un carnet à Percé parce que je vais avoir 80 ans puis je ne suis jamais allée. Alors, la dame, alors voilà. Donc, mes groupes, ça va bien. J'ai beaucoup d'inscriptions, mais j'ai encore un petit peu de place. S'il y a des gens qui sont intéressés, là, j'ai un itinéraire là-bas. On va faire Percé et les villages avoisinants. Et puis, les sujets sont infinis, là. C'est la faune, la flore, la mer, le rocher, l'île Bonaventure.
J'avoue que quand j'ai regardé un peu votre carnet de voyage sur les monuments, j'ai trouvé ça non seulement un beau projet, là, mais ça me faisait penser quasiment à un herbier. oui. Savez, comme telle. Alors, je trouve ça très intéressant de voir un peu comment vous avez fait la recherche comme telle. Parce que dans le fond, c'est un musée à ciel ouvert.
Exactement. Hein?
Ouais. Puis on peut découvrir au gré d'une promenade dans le Vieux-Québec ou autre, dépendant si on veut regarder des monuments de Québec, c'est celui-là. Sinon, vous en avez fait d'autres qui parlent des escaliers, c'est le même principe. C'est, en tout cas, j'invite les auditeurs et les auditrices vraiment à se promener un petit peu à travers des itinéraires que vous proposez dans votre carnet pour voir un peu c'est qui nos personnages, nos hommes et nos femmes d'exception d'ailleurs. Et je vous souhaite bonne chance dans vos prochains groupes d'étudiants, élèves, artistes, parce que franchement, c'est fou. C'est de tous les niveaux en plus, alors c'est très agréable. Alors j'espère, chers auditeurs, auditrices, que vous avez apprécié cette émission d'aujourd'hui. La rediffusion va se faire lundi prochain, le 2 décembre de 11h à midi à l'émission, qui sera aussi disponible en balado diffusion sur la page Facebook de notre émission. Je remercie donc nos invités Nathalie et Monique. Merci et Marc-André, notre metteur en onde. Et je vous laisse sur la dernière pièce musicale de notre invité, Monique, pour qui cette pièce représente toute l'expérience de ballet, de danse que tu as vécu, qui s'appelle le Boléro de Ravel de l'Orchestre philharmonique de France. Bonjour tout le monde.